L'heure du journal de Violette Ferreira. Bonjour Violette.
Bonjour. La troisième sera peut-être la bonne. Une nouvelle mouture du budget pour Saint-Imier sera présentée jeudi prochain au Conseil de Ville. Le déficit au compte global est élevé. Une situation jugée sérieuse par le maire Corentin Jeanneret, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous refermerons notre série sur les 50 ans du vote du 16 mars 1975. Pour cela, nous nous sommes plongés dans l'intensité de la campagne et l'extrême propagande des différents mouvements. Martine Fichter reprend le département de la Défense. Le Conseil fédéral s'est réparti aujourd'hui les 10 castères. Le sous-gouas nouvellement élu prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er avril. Météo, le ciel sera toujours couvert avec un retour des averses dans la soirée et de possibles flocons sur les reliefs selon Météo News. La limite pluie-neige va s'abaisser vers les 500 à 700 mètres d'altitude dans la nuit. Il fera moins 2 à 8 degrés de maximale sur la région. Saint-Imier dévoile les contours de son nouveau budget 2025. Cette version sera la troisième à passer devant le Conseil de Ville. Le législatif se penchera jeudi prochain sur ce plan financier issu d'un compromis entre le Conseil municipal et les partis. La mouture présente un déficit d'un peu plus d'un million de francs au compte global. Un résultat bien supérieur aux deux précédentes propositions qui tablaient sur des pertes de respectivement 380 000 et 270 000 francs. Maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret, explique ce résultat.
Ça a fait l'objet de discussions entre les chefs de fraction, la commission des finances, l'exécutif. La volonté, c'était de présenter une situation finalement qui est réaliste et de montrer aux autorités, mais aussi et surtout à la population, que la situation est sérieuse. Il est vrai qu'en présentant des budgets qui sont peut-être équilibrés ou qui donnent l'impression qu'on est sorti de la situation problématique dans laquelle on se trouve, c'est pas très lisible et c'est pas très clair. Donc là, c'est pour ça que on a décidé de faire apparaître clairement un déficit pour montrer que voilà, la situation n'est de loin pas rose, on n'est de loin pas sorti de l'écueil dans lequel on se trouve, et c'était une volonté forte de dire, ben voilà, on veut marquer un vrai déficit pour le montrer et pour que ce soit simple à communiquer et que ce soit compris surtout.
En cas d'adoption jeudi prochain, Corentin Jeanneret explique que le budget entrera en force à la fin avril, début mai. D'ici là, la commune devra continuer de fonctionner sans plan financier et ne pourra qu'effectuer les dépenses nécessaires à son fonctionnement. La banque cantonale bernoise continue sa croissance. En 2024, le bénéfice annuel a augmenté de 3,3% en comparaison à l'année précédente. Il se situe à 180 millions de francs, indiquait la banque ce matin. Le nombre de clients est lui aussi en hausse. Attention, si vous habitez Tramelan, de faux collaborateurs font du porte-à-porte et tentent de rentrer dans les maisons. C'est la mise en garde faite hier par les autorités communales. Les individus prétendent avoir une exclusivité sur la gestion du réseau téléphonique et sur la connexion Internet de la commune. En cas de doute sur la véracité d'un démarchage, il est conseillé d'appeler la police au 117. Il est de nouveau possible de pêcher dans la Suze. La direction de l'environnement annonce aujourd'hui la levée des restrictions. Elles avaient été mises en place à l'automne dernier après un accident d'hydrocarbures et concernaient le cours d'eau uniquement après Péry-la-Heutte. Après des analyses menées, la chair détruite présente toujours des petites quantités d'hydrocarbures. Mais les valeurs ont nettement baissé, précise le canton qui préconise toutefois la retenue. L'ouverture de la pêche à la truite a lieu ce dimanche. Dernier volet de notre série sur les 50 ans du vote du 16 mars 1975. On revient aujourd'hui sur l'exceptionnelle propagande activée par les différents mouvements partisans de Berne ou du Jura. Une campagne qui a gagné en intensité par rapport à celle qui a conduit au premier plébiscite du 23 juin 1974. Une intensité étouffante dont nous parle Olivier Zano.
Janvier 1975, Malrebet Villard, les slogans hostiles à Delémont et au Rassemblement jurassien fusent dans la rue. Une manifestation organisée par le groupe Sanglier qui marque le début de la campagne en vue du vote du 16 mars. La tension est palpable, les appels à la pondération et au calme se multiplient au nord comme au sud. Appel indispensable selon André Horry. Au micro de la radio suisse romande, le membre du comité de force démocratique ressentait déjà le caractère explosif de cette nouvelle campagne.
Si deux mois avant les échéances, on réunit autant de monde qu'on a réuni actuellement, c'est le signe que la lutte sera très sévère.
Vous avez des craintes ?
Oui, j'ai des craintes.
La TSR et la RSR couvrent cette campagne. L'émission Radio-TV Je vois tout témoigne d'ailleurs de cette tension. Le journaliste Jean-Luc Ingold en parle en ces termes trois petits jours avant le 16 mars.
Partout, on sent une tension. Sous les arguments économiques ou politiques, percent avec insistance les chancres de l'intolérance pseudo-culturelle, ethnique ou religieuse. C'est pourquoi, après l'affrontement, que l'on peut juger aujourd'hui modéré, qui a résulté en la victoire des autonomistes le 23 juin 1974, la voix de la raison a fait place au cri de la passion. C'est pourquoi aussi partisans et adversaires d'un retour à Berne se lancent réciproquement leurs arguments à la face avec une véhémence telle qu'ils n'entendent plus rien, qu'ils oublient tout ce qui les rapproche pour ne retenir que ce qui les sépare.
Sur le terrain, la campagne est totale. Elle engage les jeunes, les anciens, les femmes aussi, plus mobilisées que jamais. À l'époque, pas de radio régionale, mais des journaux, pour la plupart polarisés. Le Journal du Jura, le Démocrate, le Pays, Optique Jurassienne, le Jurassien qui deviendra plus tard le Quinquet. Outre les éditos et les tribunes réservées aux pontes politiques des deux bords, les pages débordent de slogans tapageurs, de listes de citoyens appelant à voter oui à Berne ou non à l'éclatement du Jura. La rhétorique séparatiste joue à fond la carte de l'unité du Jura avant le 16 mars 75. Celle des antiséparatistes oppose la sécurité bernoise à l'incertaine aventure jurassienne, une pensée notamment illustrée par le biais d'un personnage, Monsieur Bonsens. Chaque camp s'accuse aussi mutuellement de mensonges, de manipulations. La moindre déprédation, attaque physique ou verbale est rapportée, publiée, utilisée dans une propagande impressionnante qui, 50 ans après, nous plonge encore dans cette extrême tension. Anne Beuchat est responsable des archives à Mémoire d'ici. L'institution regorge de témoignages.
On a constaté qu'un tas de personnes qui avaient vécu les événements à la maison recueillaient leur propre revue de presse, la mettaient dans des enveloppes, la classaient. Et donc on a reçu des cartons de bananes entiers de revues de presse de toutes les opinions. Après, des documents encore plus étonnants. Là, j'ai sous les yeux des vinyles de propagande, parce que autour du 16 mars, la propagande était vraiment intense. J'ai le cœur du GFFD, j'ai des petits disques souples du Rassemblement jurassien, des tops du 23 juin, alors là on est un tout petit peu avant. Évidemment, nous avons aussi des autocollants, des affiches, des pins, des jeux de cartes, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Anne Beuchat qui lance d'ailleurs un appel, Mémoire d'ici accueille avec joie tous les documents liés à la période plébiscitaire. Ils sont les témoins essentiels d'une page difficile de notre histoire commune. Histoire qui donc, il y a 50 ans, quasi jour pour jour, aboutissait au grand oui des districts du Sud en faveur de leur maintien dans le canton de Berne. Avec ce discours de Roland Stelly enregistré par la RSR à Tavannes, la décence dans la victoire, un appel à la paix. Peut-être aura-t-il fallu attendre 50 ans pour en deviner enfin les contours.
Malgré la nouvelle limite cantonale qui se dessine, nous restons tous des confédérés. Et l'honneur d'être suisse commande la dignité, exige surtout cette paix que nous proposons à nos adversaires, comme nous la souhaitons à tous nos amis. Vive le Jura bernois!
Un dossier d'Olivier Zanot, dernier volet de notre série sur les 50 ans du vote du 16 mars 1975. Un thème qui nous amène à parler aussi de l'identité du Jura bernois. RJB vous propose une table ronde en direct de la Couronne à Sonsbeau aujourd'hui dès 12h30 et jusqu'à 13h15. Jean-Pierre Graber, Corentin Jeanneret, Moussia de Vatteville et Patrick Linder évoqueront cette évolution identitaire depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui et la diffusion de la marque Grand Chasseral. Le nouveau conseiller fédéral, Martin Fichter, sera bien le ministre de la Défense. Le Conseil fédéral n'a pas modifié l'attribution des départements ce matin. Chacun garde le sien et le nouveau hérite de la défense, de la protection de la population et des sports. Il hérite surtout d'un département en crise. Martin Fichter devra prendre des décisions importantes dès le début de son mandat. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Martin Pfister devra rapidement nommer un nouveau chef de l'armée et un nouveau chef du renseignement. Il devra définir des priorités pour utiliser les nouveaux moyens financiers à disposition de l'armée, trouver comment augmenter le nombre de soldats et élaborer une stratégie de politique de sécurité. Surtout, il devra mettre de l'ordre dans tous les dossiers problématiques, les drones, les avions de combat, la gestion de l'entreprise d'armement Rouag. Avant son élection, Martin Pfister nous avait confié comment il comptait s'y prendre.
Pour la confiance du Parlement, aussi du peuple. Il faut traiter les projets avec une grande priorité et aussi avec une grande cohérence. Autrement, la confiance va être perdue et c'est aussi une priorité de traiter les choses avec une grande conséquence et aussi transparence dans les années prochaines.
Martin Pfister reprend le département de la Défense dans un contexte sécuritaire tendu au niveau international. Il affirme vouloir défendre la neutralité de la Suisse, tout en collaborant avec l'OTAN et avec les armées européennes.
Martin Pfister entrera officiellement en fonction le 1er avril. Ailleurs dans le monde, l'armée russe poursuit sa progression contre l'Ukraine. Elle revendique aujourd'hui la reprise d'une localité dans la région russe de Koursk. Cette zone est occupée par les forces ukrainiennes depuis l'été dernier. Cela intervient alors que le président du Kremlin, Vladimir Poutine, a ordonné cette semaine à son armée d'expulser dans les plus brefs délais les troupes ukrainiennes du sol russe. Un préalable essentiel à ses yeux pour entrer dans d'éventuelles discussions de paix avec Kiev. Nouveau palier pour l'or. Aujourd'hui, le métal précieux a franchi pour la première fois la barre des 3 000 $ l'once. Hier, l'or avait déjà franchi son précédent record établi en février. La valeur refuge est prisée face à des craintes géopolitiques et sur fond de menaces d'une guerre commerciale avec les États-Unis notamment.
RJB, il est 12h26.
RJB, sport.
Le HC Moutier connaît ses adversaires pour la finale suisse de 2e Ligue. Les hockeyeurs prévotois sont champions romands depuis hier soir. Ils ont gagné leur série contre Mérin 2-1. Le HCM entamera la finale nationale mardi prochain sur la glace des Bernois d'Oberlangnek. Il recevra ensuite les Suricois de Küsnacht. Les deux meilleurs classés de ce mini-tournoi s'affronteront dans une ultime finale. Les skieuses suisses au pied du podium à la tuile Lara Gutberg Rami et Corinne Souter ont pris la 4e place du Super G qui se tenait ce matin dans la station italienne. La Tessinoise et la Schwitzoise ont terminé à 35 centièmes de la vainqueur, l'Italienne Federica Brignone. Le podium est complété par sa compatriote Sofia Gauthier et la Française Romane Miradoli. Lara Gutberami réalise une mauvaise opération en classement de la discipline. Elle concède la première place à la vainqueur du jour et possède 5 points de retard avant le dernier Super G de la saison. Jonas Vingegaard quitte le Paris-Nice. Le cycliste sur route danois n'a pas pris le départ de la 6e étape de la course au soleil. Il a été victime d'une chute hier et souffre d'une contusion à la main gauche. Jonas Vingegaard était 2e du classement général à 22 secondes de son coéquipier américain Matteo Jorgensen. Merci pour votre écoute. L'information revient à 13h. Bonne journée.
RJB Sport.